Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Nous allons évoquer, c'est une étude ce matin que je vous propose, elle est simple. C'est un message qui a déjà été donné à Saint-Nazaire il y a environ 2 mois, mais ce n'est pas le même commentaire. Voilà, c'est pour compléter un message que j'ai donné il y a 25 ans. Alors 25 ans, ça fait déjà un peu de temps, ça c'est sûr, à Angers. Et j'ai voulu justement le mettre un petit peu au goût du jour pour vous les redonner. Alors nous allons ouvrir un passage de notre Bible dans le livre de Jacques, l'épître de Jacques au chapitre 2. Et nous allons prendre le verset premier. Ce sera une lecture qui ne va pas être très très longue, mais néanmoins. Il est besoin que nous puissions comprendre le sens de ce que Jacques a voulu dire à ses contemporains et qui demeure 21 siècles plus tard, tout à fait d'actualité pour nous. Et vous allez pouvoir en juger. Alors Jacques, chapitre 2, verset 1er. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exemple de tout favoritisme. Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée. Imaginons-nous notre église ce matin réunie, un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. » Et si vous dites aux pauvres, « Toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. » Ne faites pas en vous-même une distinction, et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises. Écoutez, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'il soit riche en la foi et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Et vous, vous avilissez le pauvre, n'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traitent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme transgresseur. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Alors, parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. » J'ai voulu donner un titre naturellement à ma méditation, cette méditation « Faites bon accueil à tous ». Maintenant, ça n'enlève rien que nous avons besoin de discernement à qui nous avons affaire. On l'entend en ce moment là dans tous les événements guerriers, on n'est pas des bénis oui-oui, vous comprenez ce que ça veut dire, nous avons besoin de jugement juste, et nous avons besoin de discernement de qui nous avons affaire. Alors entre nous, nous nous reconnaissons naturellement, nous savons, parce que nous avons appris à nous connaître, etc., avec toutes les différences qu'il peut y avoir, mais ce n'est pas très grave. Alors nous allons aborder un sujet délicat, s'il en est, c'est que nous avons souvent des tendances, nous avons quelquefois des propensions involontaires à aller davantage vers un tel plutôt qu'un autre, n'est-ce pas vrai? dans l'Église, dans nos familles charnelles, nous pourrions dire, et en sélectionnant les uns les autres en fonction des caractères, de toutes sortes de choses. Est-ce qu'il ne nous arrive pas quelquefois d'éviter un chrétien pour ne pas le saluer? Et pourtant, nous sommes à prier Dieu ensemble. Est-ce que quelquefois nous réservons certaines conversations avec certains et pas avec d'autres? C'est aussi une réflexion. Réservons nos amitiés au cadre restreint de nos affinités, parce que je l'aime bien, parce qu'elle m'aime bien, alors à ce moment-là, il y a des affinités, et puis nous avons... Mais c'est pas mauvais en soi, quelque part. Hein. On reste dans l'équilibre, naturellement. Hein. L'équilibre. Parfois, nous ignorons certains. Ça fait peut-être des mois et des années que nous nous voyons, mais nous... Quelquefois, non, ça ne nous dit rien, tout simplement, par la simple raison, et ça c'est important parce que c'est aussi en forme d'exhortation, que nous n'avons jamais pris la peine, tout simplement, de la connaître ou de le connaître. C'est terrible, hein, ça, c'est vrai, c'est bizarre. C'est bizarre. En disant, on connaît bien cette personne, mais on ne la connaît pas. Alors peut-être qu'il y a eu des ressentis auparavant, quelquefois, des choses qui n'ont pas passé, mais vous savez, parmi les grands ennemis qu'il peut y avoir dans le monde, mais ils sont ennemis parce qu'ils ne se connaissent pas, et ils ne veulent pas se connaître, ils se refusent de se connaître. Jésus a enseigné ceci, et il dit cette parole, « Si vous vous aimez, et si vous aimez que ceux qui vous aiment, » vous connaissez, hein, c'est dans le Sermon sur la montagne, « Quelle récompense méritez-vous ?» bien sûr, c'est facile dans ces moments-là. Alors j'espère que ce matin, on s'aime tous. Hein. Aimez-vous les uns les autres, ça c'est aussi ce que nous savons. Alors, quelle récompense ou alors que méritez-vous? Et vous ressemblez à ce moment-là à des publicains, pas à des chrétiens, mais vous ressemblez à des publicains, et vous savez ce qu'ils étaient ces gens-là, qui agissent finalement, vous agissez de la même manière qu'eux, quoi qu'il en soit. Et si vous saluez seulement vos frères, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? C'est pas un miracle, c'est pas du surnaturel, hein. Vous faites ce qui est normal, de toute manière. Si nous acceptions, je le dis de cette manière, des personnes, eux, uniquement les personnes de nos églises, est-ce que nous allons passer rapidement comme une secte? Voilà, c'est véritablement douillé, c'est tranquille, c'est formidable, et ils ne parlent pas aux autres, ils ne parlent pas au monde, le monde c'est quelque chose de diabolique, c'est quelque chose de terrible. Alors, si nous restons dans notre vase clos, qu'est-ce qu'à ce moment-là, finalement, nous pouvons prétendre? S'intéresser, accueillir, faire connaissance, sympathiser, d'abord avec des visiteurs qui viennent nous rejoindre, pour bien les accueillir, et pour qu'ils se sentent bien au milieu de nous. Alors, quand ce sont des chrétiens comme nous, ils se retrouvent dans une maison qui est peut-être semblable à la leur, hein, là où ils habitent, naturellement. Mais nous avons des visiteurs, nous avons des sympathisants, nous avons de nouveaux membres qui sont parmi nous. Alors ils sont un petit peu dépassés parce que ce n'est pas la même région. Alors c'est peut-être souvent en France la même langue, naturellement. Hein. Mais nous allons en faire des isolés au milieu de nous. Ils ne vont pas s'intégrer. Des isolés ils seront au milieu de nous comme des îlots. Mais ce n'est pas à eux de venir à nous, c'est nous d'aller vers eux. Hein, pour les accueillir, pour leur donner des paroles encourageantes. Et à ce moment-là, nous pouvons peut-être ajouter ceci, c'est qu'il y a des gens qui sont plus timides que d'autres. Ils se disent, moi j'ose pas, ici il se fait ceci, il se fait cela. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à ce moment-là, si nous n'allons pas vers les timides, ils ne vont jamais trouver leur place. Alors, il y a des gens qui vont franco, hein. Il y a des gens qui arrivent chez nous et puis dans nos églises, hein, diverses, et ils s'installent, et puis ils s'installent bien, ils prennent toute la place des autres. Alors, il y a tout un cheminement, mais c'est un petit peu la même formule que nous avons dans notre vie privée. Quelqu'un qui rentrerait dans votre maison et puis qui commence à s'installer à table alors que vous n'avez pas fini la cuisine. Et puis, il y a toutes sortes de situations, et puis il y a des gens qui sont tellement timides, tellement timorés, que là, ils vont rester, je l'ai dit, comme un îlot au milieu de nous, je parle de l'Église, et qui, quelque part, ne pourront pas exprimer. Peut-être là où ils étaient libres avant, là, ils vont se sentir ils vont se sentir finalement pas à leur place. Il y a les découragés aussi qui viennent dans nos églises. Il y a des gens qui viennent, ils sont en morceaux. Ils sont véritablement profondément travaillés peut-être par leur vie passée. Et peut-être en venant dans nos églises, ils vont peut-être, Dieu les a envoyés peut-être pour trouver l'épanouissement et la liberté. Alors les découragés, quelque part, ils ne trouveront pas à qui se confier, même pas vers le pasteur, parce que nous avons besoin, mais je le vois ici à Redon, ou à Saint-Nazaire, c'est pareil, mais je le vois, nous avons besoin vraiment de nous accueillir les bras ouverts les uns et les autres. Après, s'il y a des petites corrections à faire, mais ça se fera naturellement, et je crois que le Seigneur nous conduira et nous dirigera, parce que ce qui est important, c'est vraiment faire partie du groupe, faire partie de l'Église. Et ça, c'est important. Nous avons dans la suite, et ce que nous avons lu, et je vais passer par le détail, l'apôtre Jacques expose 4 raisons pour agir sans faire de différence. Alors, ce sont des clés, si vous voulez, par là, mais ce n'est pas des principes que je veux dire, qui sont difficiles à comprendre. La première raison, 4 raisons, la première raison serait la suivante, c'est le favoritisme et nos motivations qui sont les nôtres. Des gens viennent, des amis viennent, des frères et sœurs viennent, des inconnus viennent, et peut-être c'est l'espace où ils vont se convertir. On se souvient, nous, quand on est rentré pour la première fois dans une église, on a entendu l'évangile, et puis on a vécu quelque chose. Donc c'est le favoritisme et nos réactions avec des motivations, finalement, qui vont présider à notre accueil ou non-accueil. Le deuxième point que Jacques nous rappelle, c'est l'intérêt, les intérêts. Ah, voilà, ce monsieur, il a un beau manteau, ou il a un anneau d'or, on va en reparler. Moi, je vais tâcher de m'adjoindre à lui, et puis on va voir si on ne peut pas faire une amitié, peut-être, pourquoi pas. Alors, c'est l'intérêt. Est-ce que l'intérêt est bon lorsqu'il y a des passés, des motivations qui ne sont pas toujours très pures? Ou alors, c'est complètement le contraire. C'est-à-dire, il vient, c'est très bien qu'il vienne, il est au milieu de nous, c'est très bien. Mais, vous savez, c'est un pauvre garçon, c'est un pauvre homme, c'est une pauvre femme. Regardez de la manière dont il vient en savate, d'abord au culte, il a vraiment un aspect, alors c'est le mépris, ça. Il peut y avoir aussi cet aspect, parce qu'il n'est pas comme nous, parce qu'il il a des manières excentriques aussi, on peut le dire. On peut souligner ça. La troisième raison, c'est la partialité. Moi, j'aime ces gens-là, mais j'aime pas les autres. Alors, ça peut être racial, ça peut être parce qu'ils parlent pas peut-être forcément notre langue très bien. Alors, il faut faire des efforts pour comprendre ce qu'il a à dire, mais qu'il reste quelques mois au milieu de nous, il va bien apprendre, de toute façon, quoi qu'il en soit, et on le comprendra probablement. La partialité, ou alors une forme d'injustice, de dire, nous on est entre soi, et c'est très bien, ça va pas plus loin. Et puis les inégalités choisies. Et ça, il faut faire attention avec tous les sous-attendus, en disant, mais moi je ne m'en ferai jamais un ami. Moi, je ne veux pas parler avec lui parce que, j'ai entendu dire, et si on n'entend que dire, c'est autre chose, il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège. Parce que j'ai entendu dire qu'il y a ceci et cela, son passé est ceci et cela. Vous savez que dans notre histoire, ne serait-ce que de Redon et Saint-Nazaire, et je parle de Saint-Nazaire, on a eu des gens qui venaient, qui sortaient de prison. On les a accueillis. Il n'y a pas de problème. Oui, parce que s'ils sont là, ils ne sont pas là par le fait du hasard. Je pense à quelqu'un, c'était quelqu'un qui s'était converti quand il était jeune, il a fait des bêtises après, un homme parmi nous et tout ça, il était baptisé du Saint-Esprit. Alors il faut faire attention aux inégalités choisies, là il a un passé, non. Si la justice humaine l'a pardonné, il a fait sa peine, c'est pas la peine, on va pas remettre une couche. Vous comprenez Et tous les sous-entendus que ça peut avoir. L'apôtre Jacques expose ces 4 raisons que nous allons essayer de détailler maintenant simplement. C'est Dieu qui nous en donne l'exemple. Et dans cet exemple, il nous dit au verset 5 de notre texte que nous avons lu, écoutez, on va pouvoir peut-être nous remémorer. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi héritier du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Ben oui, parce qu'il y a des gens même qui peuvent venir de différents horizons, avec des fautes énormes dans leur vie, mais Dieu les a choisis pour qu'ils héritent le royaume de Dieu. Et c'est curieux. Et vous savez, il y a certainement beaucoup plus de pauvres gens au milieu de nous qui n'ont pas eu la chance d'avoir une éducation, d'avoir finalement, eh bien là, d'être disciplinés dans leur vie. Et on les retrouvera là-bas. Hein. Sur la terre, ce sont des parias, mais de l'autre côté, et Dieu veut les sauver aussi, ces gens-là.
Amen.
Ah oui, plus que ceux qui sont nantis et qui, quelque part, en effet, font de l'argent leur Dieu. Hein. Ça, c'est... Mais ça se vérifie. Alors il dira, mais vous avilissez le pauvre, parce qu'il est pauvre, vous le voyez pauvre, et finalement vous ne le reconnaissez pas comme un futur enfant de Dieu. Ben, vous savez, l'évangélisation, elle commence par là. Hein. Vous vous souvenez comment vous êtes venu, dans quel état vous étiez venu, peut-être au niveau santé, au niveau situation sociale, etc. Oui, mais Dieu va chercher... Quelquefois, les ivrognes invétérés, il va chercher les pauvres gens qui sont là depuis des années dans la misère, dans toutes sortes de choses. Mais qu'est-ce qui les a amenés là pour qu'ils tombent aussi bas? Alors, en faisant la différence comme ça, c'est quelque chose qui eh bien, peut être préjudiciable et qui peut tuer. Oui, qui peut tuer l'évangélisation. Parce que si on va chercher que des bourgeois, des nobles, ben, c'est un peu plus rare, les nobles. Mais bon, mais toujours est-il que... Voilà, on en est là. Hein. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment? Parce qu'il aimait, l'apôtre est en train de mettre en parallèle. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas ceux, ne sont-ce que, voilà, n'est-ce pas eux qui outragent le bon nom que vous portez? Alors c'est une réflexion ça aussi, hein, pour pouvoir avoir un jugement qui soit... équilibré. Alors c'est Dieu qui a fait les choses le premier, et s'il l'a fait le premier, qu'est-ce que nous avons à faire, nous? C'est de l'imiter, tout simplement. Est-ce que nous ne pouvons pas faire la même chose de notre côté? Même, eh bien, pour les hommes, pour les êtres les plus insignifiants. Il y a quelque chose qui est intéressant, parce que je voudrais le rappeler, parce que ça fait partie du programme, quelque part, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 26, il est dit ceci, écoutez bien. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, nous sommes des appelés, qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair. Alors vous apprécierez. Ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il y a double sens là, hein? Absolument. Pour dire que Dieu est venu, il a donné Jésus à la croix pour mourir pour chacun d'entre nous. Mais ça ne rentre pas dans considération des classes, de la société, tout ça. Parce que les hommes sont les hommes. Et ils ont tous besoin de se repentir et tous besoin de venir à Jésus pour être sauvés. Et Jésus est mort pour tous. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Eh oui, ça c'est le miracle de la puissance de Dieu, de prendre quelquefois des pauvres gens, même des gens qui ne savent pas parler, et en faire des prédicateurs. Ça on l'a vu. Ah oui. Hein, et des bègles aussi. Nous, on a connu ça aussi. Hein. Un pasteur qui est bègle quand il est en dehors du micro, et quand il est au micro, c'est vraiment un homme rempli de l'esprit. Hein. Extraordinaire. Ça, c'est formidable. Hein. Ouais. Parce que Dieu est le Dieu du miracle, de toute façon. Et quand il choisit, il sait ce qu'il fait. Il ne se trompe pas. Jamais il ne se trompe. Peut-être que vous avez des appréciations sur vous-même en disant « mais je suis rien, je suis nul, etc. etc. » Non. Pour Dieu, vous êtes quelqu'un. Et pour Dieu, vous avez véritablement même un plan. Nous avons besoin de prier pour que Dieu nous révèle eh bien, ce qu'il a fait pour nous. Le plan qu'il a pour nous, il ne sera pas le même pour les uns et pour les autres. Il sera différent. Heureusement qu'on est différent. Ouais. Il y a des blonds, il y a des bruns, il y a des violets, quelquefois, parmi nous, c'est rare. Hein? Mais une chose qui est certaine, c'est que quelque part, Dieu ne se trompe pas dans ses choix. Et quelquefois, eh bien, il confond les gens qui se disent « moi, je suis quelqu'un ». Ouais, il les confond. C'est ce qu'on est en train de lire. Hein. Dieu a choisi les choses viles du monde, ceux qui sont bas tombés, ceux qui ont été traînés dans la boue et tout ça. Mais il va les purifier, il va les nettoyer, et il va en faire des hommes de Dieu extraordinaires. Ah oui, c'est quelque chose. Hein. Les choses viles du monde, ceux qu'on méprise et celles qui ne sont point. Comme si, finalement, eh bien... il va les faire naître à une nouvelle dimension. Nous sommes de nouvelles créatures. Et Dieu a choisi les uns, il a choisi les autres. Et avec ça, il va constituer son armée, si on parle de combat. Mais il va choisir tout simplement sa famille. Eh oui, c'est quelque chose. Hein. Il va les transformer, une nouvelle création. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu en disant, Seigneur, bah, tu sais, hein, écoutez, vous me regardez, moi, maintenant, là, vous êtes en train de m'écouter. Mais je suis quand même le plus beau, je suis quand même le meilleur. Inégalable. Ah ben, ça vous, ils vont plus ça vous fait rire. C'est pas la vérité. C'est pas la vérité, vous l'avez compris. Ça, c'est sûr. La volonté divine est que l'homme ou la femme devienne à son tour riche et un héritier par la vertu des grâces que Dieu lui a offertes et qu'il offre à tous sans distinction. Eh oui. Il y a des gens qui se disent, mais moi, je suis chouchouté de Dieu. Il ne m'arrivera rien, c'est formidable. Et puis, il y en a d'autres qui disent, mais moi, Dieu m'a abandonné depuis bien longtemps. Non. Attention à ce que nous pensons de nous-mêmes. Voilà, sans distinction, sans préférence. Tout ça par la foi et l'amour que Dieu porte à chacun, promis à ceux qui l'aiment. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. On va aller un peu plus loin et puis on va aller un petit peu vers la deuxième raison. Mais je finis une conclusion sur la première. Désormais, et pour ne pas être injuste, nous avons besoin d'examiner les mobiles secrets qui président à nos choix. On va aller un petit peu plus loin dans nos réflexions et dans finalement ce que l'on pense. Nos choix, le choix de nos amis à travers les sélections, justes ou injustes, des relations de partage pour savoir s'ils sont chrétiens ou non, mais ça, ça se voit, inspirés davantage par la position sociale. On y regarde dans notre monde. Hein. Eh, il y a toute une hiérarchie dans notre monde, que ce soit chez les militaires, que ce soit chez les religieux aussi, et dans la vie professionnelle, dans toutes sortes de choses. Hein. Voilà, position sociale. Moi, je ne fréquente que des gens qui ont au moins bac plus 8 ou des choses comme ça, parce que je me sens au-dessus de toute façon, peu importe. Hein. Le choix par rapport à la fortune. Ah tiens, tiens, moi si je pouvais finalement eh bien, avoir des amis qui nous parlent de leur fortune, ils doivent l'avoir. Et si je peux arriver à m'agréger avec eux, ça me donnera un petit peu plus de reconnaissance. Les goûts et les affinités. Alors, ce n'est pas défendu. Hein. Les goûts et les affinités, ce n'est pas... Surtout d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour les arts, le culturel, l'intellectuel. Le raffinement mondain. Vous avez vu comment les gens sont conformistes aujourd'hui? Ah ouais, la mode. À travers, il y a beaucoup de choses qui sont de notre temps aujourd'hui. Et les gens font tous la même chose. Ah oui, c'est curieux. Hein. Conformité. On appelle ça des... Enfin, je ne critique pas, mais parce que peut-être que certains en ont besoin. Hein. Mais les moutons de panurge, vous connaissez l'histoire des moutons de panurge hein? Eh oui, alors tout le monde suit parce qu'on a dit que c'est la mode, hein, ça, de toute façon. Ce sont les meubles, les modes. Donc, raffinement mondain, plutôt que la simplicité d'un cœur qui, quelque part, doit être notre livret, je veux dire, le but de notre vie. Alors, nous avons parlé de simplicité, nous avons parlé de foi, nous avons parlé de Christ, mais tout doit être finalement conditionné à ce que Christ est pour Christ, par Christ et en Christ. Ça, c'est ce que Jacques veut nous enseigner particulièrement. La deuxième raison serait la suivante. C'est, et on l'a dit tout à l'heure dans la présentation, l'ingratitude et la conduite indigne de certains qui se prétendent, qui sont riches, voilà, parce que ça leur permet finalement de monter dans l'échelle des choses. Nous avons besoin de faire attention parce que, est-ce que nous serions, nous, eh bien là, finalement, amis de ceux qui nous aiment bien, simplement, et chercherions-nous, c'est ce que le texte nous dit, la protection de personnes influentes et puissantes par la simple raison qu'ils sont forts, qu'ils sont réputés et prestigieux, que notre démarche à leur égard soit, eh bien, tout simplement une crainte. Pourquoi avoir peur de ces gens qui sont influents? C'est des hommes comme les autres, hein, de toute façon. C'est ce qui se passe actuellement en politique, là, vous avez vu hein? avec tous les changements qu'il peut y avoir, à tous les revirements à travers, finalement, eh bien, les choses qui sont antinomiques. Hein. Mais où ça va nous amener, tout ça, hein? Parce qu'il va y avoir, ça va finir avec que les très riches, les millionnaires, hein? Et puis autrement, ben, il va y avoir vraiment des gens qui vont souffrir. Hein? Préservons notre pays, en tous les cas. Hein? Nous en avons besoin, parce que là, on a peut-être vécu le meilleur. Mais quand les choses se renversent comme ça, et qu'un pays devient tellement là, puissant, et qu'il n'y a que l'argent qui compte, ça risque de poser des sacrés problèmes. Hein? Parce qu'il va y avoir des très riches, et il va y avoir des très pauvres. Et au milieu, il y a des gens qui vont végéter. Hein? Ouais, ça va être terrible. Hein? Alors, la crainte que peut nous inspirer ces gens qui sont en puissance et qui nous inspirent, eh bien tout simplement l'envie de les fréquenter par l'intérêt que l'on peut en retirer. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Hein. C'est pas bon du tout de leur compagnie, intérêt de finalement intégrer leur compagnie. Eh bien, nous ferions à ce moment-là une grave erreur, même par rapport à notre foi, même par rapport à notre christianisme. Regardez les grandes églises puissantes, les grandes communautés puissantes, chrétiennes, christianisme, pour ne citer qu'elles. Moi, je me suis souvent posé la question si Jésus revenait. Et je ne sais pas s'il irait au Vatican ou des choses comme ça, parce qu'il dirait, mais dis donc, il y a quelque chose qui a changé là. Hein. Ouais, ouais. Donnez gratuitement parce que vous avez reçu gratuitement. Et quand on voit tout ce mouvement qu'il y a... d'opulence. Moi, je pense aux orthodoxes, là, la Russie, vous savez, ou l'Ukraine, parce que c'est pareil, hein, c'est les gens des orthodoxes. Tout ce déploiement qui écrase finalement le monde. Hein. Alors, on pourrait penser que ben, le Dieu qui est là, c'est véritablement le Dieu de l'argent, le Dieu du pouvoir, le Dieu de la force, hein, le Dieu des capacités que nous donne finalement eh bien, d'avoir de l'or, tout simplement. C'est difficile. Il faut bien ajouter ceci, que notre foi... notre espérance, notre bien-être, notre délivrance est en Christ et non dans les hommes. Ouais. J'ai toujours, sur le plan de la santé, j'ai toujours l'occasion de dire, et je le redis encore ce matin, les hommes soignent, merci Seigneur, d'avoir donné des hommes avec des capacités intellectuelles, avec une dextérité pour telle ou telle discipline. Mais une chose qui est certaine, les hommes soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Il ne faut pas non plus inverser les rôles. Parce que ça, c'est quelque chose. Priez donc pour les médecins qui font l'opération. Voilà. Priez bien pour les médecins qui vont vous prescrire des médicaments, enfin, qui ne se trompent pas. Parce que ce sont des hommes, tout simplement. Et le médicament que Dieu nous donne, c'est la personne de Jésus. Et si vous me permettez, c'est un petit peu osé ce que je suis en train de dire, mais c'est Jésus. Et le pouvoir véritablement, eh bien, n'avoir dans notre vie que Jésus et Jésus seul, c'est important, ça. Il ne faut pas l'oublier. Dans Jérémie, chapitre 17, il est dit ceci, et c'est Dieu qui parle à travers le prophète. « Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. » Voilà. Lorsque nous sommes en Église, c'est bien la société de nos frères, de nos sœurs, c'est bien. Mais une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que Dieu qui est véritablement le maître souverain de cette Église et de chacun d'entre nous. Malheur à l'homme, il est bien dit, hein, malheur à l'homme qui prend eh bien, la chair pour appui. Que nous fassions confiance aux uns et aux autres, à nos semblables, c'est une chose, mais c'est là-haut que ça se passe. C'est là-haut que doit se diriger notre foi ou ancrer notre foi. Et nous pouvons penser que là, eh bien, Jérémie est en train d'appuyer sur quelque chose qui nous est nécessaire, pour pas que nous fassions d'illusions. Au verset 6, il est dit ceci dans notre texte, pour répéter les choses, il est dit ceci, « Eh bien, en faisant ce genre de choses, vous commettez un péché. » Oui, vous commettez un péché, vous intervenez là dans quelque chose. C'est lui, vous avilissez le pauvre qui va rester pauvre et qui sera toujours de plus en plus pauvre. Et ce sont les riches qui, quelque part, ont les moyens de vous faire du mal à vous. Hein. Toutes les persécutions religieuses qu'il y a eu, eh ben, ce n'était pas les pauvres hein, les pauvres se révoltent, mais c'est les riches qui écrasent. Hein. On l'a vu dans les faits des évangiles, quoi qu'il en soit. Hein. Les riches incroyants n'ont qu'un intérêt, c'est le profit. Le profit de ce que peut-être le peu que vous ayez mais le profit de votre personne. Hein, pour, vous savez, l'esclavage, hein, l'utilisation de l'homme par l'homme, écraser l'homme l'homme, ça s'est toujours vu, et c'est encore aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, ça n'a rien changé de cela. Alors il faut faire bien la différence. N'allons pas nous imaginer, poursuit cette étude, finalement, eh bien, que le riche ne se préoccupe pas de la cause de Dieu. Hein. Un chrétien est voué à Dieu. Mais celui qui, non-croyant, chrétien, non-croyant, enfin pas chrétien, mais riche, non-croyant, son souci, ce n'est pas le royaume des cieux, hein. Ce n'est pas le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu, il s'intéresse aux pauvres, il s'intéresse aux petits, il s'intéresse finalement, eh bien, c'est ça ce que nous avons besoin de retenir. Alors, n'est-ce pas ceux, nous dit le texte, hein, ceux qui vous outragent le beau nom que vous portez. Voilà, que de mépris. Finalement, les puissants de ce monde ont pour, non pas pour la religion, parce qu'ils sont impliqués dans la religion et ils s'en servent, hein, mais pour nous qui sommes quelque part que des marginaux, parce que nous ne sommes peut-être pas finalement dans tous ces critères. Si les riches possesseurs de fortune ou d'autres choses, qui sont incroyants, vers lesquels nous cherchons appui et les avantages, eh bien, sachez une chose, que ces gens-là devant vous, ils peuvent avoir un regard, mais également dans leurs affaires, ils se moquent de vous, hein, ils se moquent. Ouais. Moi, j'ai peur de ce qui va arriver actuellement avec tous les bouleversements qu'il y a. Mais je le disais, je le confirme, il va y avoir vraiment des gens qui sont malheureux, mais qui vont être encore plus malheureux. On ne va pas s'en occuper. Parce que le but, finalement, de ces puissants, qu'ils soient de quelque nationalité, ce n'est pas les pauvres hein, qui les intéressent. Oui, si, pour qu'ils les utilisent, mais autrement, ce n'est pas ça. Et nous voyons que ces gens-là, ils blasphèment le nom de Jésus. Alors ne soyons pas les complices, à travers des idées politiques, à travers toutes sortes de tendances, quoi qu'il en soit. Parce que, vous savez, on est dans un grand mélange aujourd'hui, on se demande comment l'eau va être claire hein, dans tout ça, à la fin, au final, hein, quoi qu'il en soit. La troisième raison serait la suivante, nous l'avons dit, hein, elle était tout simplement présentée de cette manière, la partialité et les injustices. Ouais. Comment agir sans préférence? Ouais. C'est difficile ça, hein, parce que naturellement, et ce n'est pas un mal en soi, c'est bien d'avoir des préférences, mais il ne faut pas qu'elles soient injustes. C'est ça, il faut qu'elles donnent la part à chacun. Et Jacques répond par le respect des principes, parce que c'est la loi maintenant qui va nous parler. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit hein? Qu'est-ce que la parole nous enseigne? Jacques répond par le respect des principes et le respect, eh bien, tout simplement, de la loi de Dieu. Parce que si nous avons besoin d'un critère, c'est ce que Dieu nous dit. Et que ce soit dans l'Ancien Testament, qui est quand même la loi stricte et tout ça, hein, et la loi du Nouveau Testament qui est véritablement la grâce, alors là, il y a quand même quelque chose, finalement, eh bien, qui se complète, et qui, mais dans la mesure où nous restons, eh bien là, attachés. Et l'apôtre nous le dit, hein, il dira, vous péchez, vous transgissez un seul commandement, c'est comme si vous aviez rompu la chaîne. Oui. Un seul commandement, eh bien, ça annule tous les autres. C'est ce qu'il est dit d'ailleurs au verset 8, hein, quand il ajoute ceci, je reprends, il est simplement rappelé, si vous accomplissez la loi royale, c'est la loi qui aussi est, comment pourrions-nous dire, véritablement, qui s'associe et complète, oui c'est le mot que je cherchais, qui complète, eh bien la loi de l'Ancien Testament c'est la grâce, la loi de la foi, la loi de la foi, ça c'est quelque chose, hein. Alors, si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça c'est le premier commandement, vous faites bien. Ce n'est pas un bien extraordinaire, mais vous faites bien, parce que c'est le bien, tout simplement. Et Dieu est un Dieu de bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Voilà, alors on peut toujours argumenter, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Mais si parmi les 10 commandements, en prenant que cela, le décalogue, alors à ce moment-là, eh bien, c'est comme si vous aviez finalement rompu la chaîne. Et ça ne sert à rien de pouvoir dire « moi, je n'ai pas fait ceci, moi, je n'ai pas fait cela ». Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est véritablement demander à Dieu qu'il nous donne eh bien, de vivre la loi dans son principe, dans son esprit. Ce n'est pas la lettre, mais dans l'esprit. Alors à ce moment-là, eh bien, ça s'appelle l'amour, tout simplement. L'amour de Dieu d'abord et l'amour de sa parole. Et je pense que c'est une chose dont nous avons besoin eh bien, de nous familiariser. Si le bien consiste à aimer comme nous nous aimons nous-mêmes, vous vous rendez compte ? Aimer quelqu'un comme je m'aime moi-même. Mais d'abord, il faut d'abord s'aimer soi-même. Le problème, il est là. Hein ? Combien de gens, et que ce soit des riches ou des pauvres, hein, combien de gens vivent dans l'argent et dans l'or et qui se méprisent eux-mêmes en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ma vie ? C'est quelque chose de terrible. » Et alors les pauvres qui n'ont rien, qui sont sur le bord du trottoir, qui n'ont rien à manger, qui n'ont rien pour se vêtir, eh bien aussi, compte tenu de leur situation de misérabilité, eh bien, s'aiment pas eux-mêmes en disant « J'ai raté ma vie. » Vous savez, derrière les suicides, il y en a bien des raisons. Hein. Ah, oui. Derrière les gens qui se donnent la mort en disant « Je peux plus vivre comme ça. » Alors, nous voyons que faut d'abord apprendre. Et c'est Dieu qui va nous apprendre à nous aimer nous-mêmes. Il nous a donné des qualités. C'est vrai que sont venus des défauts, hein, héréditaires parfois. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous pouvons toujours être aimés, parce que c'est lui qui nous a aimés le premier, et c'est lui qui nous tend la main en disant « Viens à moi, je vais changer ta vie. » Est-ce que ce n'est pas l'expérience que nous pouvons rendre comme témoignage pour nous-mêmes ?
Amen.
Ouais. Eh oui, c'est ça. S'aimer soi-même. C'est important. Et si je ne peux pas m'aimer moi-même, je ne pourrais pas aimer les autres. On est tous dans la même marmite, en quelque sorte, hein, au niveau de notre nature. Et si par défaut, nous faisons des différences, que nous ayons du parti pris, que nous sommes tendancieux à l'égard de certains, alors, comme dit le texte, nous commettons une faute, et cette faute, ça s'appelle un péché, tout simplement. Vous savez, la seule réconciliation dont nous avons besoin, c'est de nous souvenir que Dieu a donné Jésus pour nous réconcilier avec lui. Ça s'appelle la doctrine de la réconciliation. C'est une doctrine entière, hein ? Ah oui, comme la rédemption, comme la substitution. Alors, c'est des mots, hein, naturellement, voilà. Hein, on se croirait en Israël, il n'y a que des Sions. Hein, pas façon de parler. Mais bon, toujours est-il que ça, c'est quelque chose d'important. Alors, nous commettons, je l'ai dit, je le répète, une faute. Celui de la partialité. Oui, car la loi royale, c'est l'amour, et l'amour ne fait jamais de favoritisme. Je dois me le dire que lorsque, quelquefois, je vis avec une sorte de favoritisme pour plaire à quelqu'un, pour avoir peut-être de ce quelqu'un une amitié, une attention, un regard, eh bien, à ce moment-là, je dois penser que Dieu m'a aimé, il m'a donné de l'aimer lui-même, et moi, à ce moment-là, je dois utiliser cet amour qui m'est venu pour pouvoir eh bien, me défendre du favoritisme et de dire « Non, je vais être juste. » Parce que c'est une question de justice, après.
Amen.
Question de justice. Parce que, finalement, l'amour ouvre la porte à la justice et la justice de Dieu, elle est égale pour tout le monde. Que l'on soit un pauvre R ou que l'on soit un noble ou je ne sais quelle, enfin, de noblesse, hein, ou autre chose, dans des capacités, non. L'amour est égal pour tous. La loi est comme une chaîne, je l'ai dit tout à l'heure, hein, parce qu'il ne faut pas la casser. Et de haut, en bas, et puis après, verticale et horizontale. C'est le schéma que l'on peut nous donner. Alors, comment vais-je finalement eh bien, me comporter pour avoir cet équilibre ? Vous savez, il y a quelque chose qui peut être... On est souvent enclin à violer la loi ou à violer finalement le bon sens, les principes, etc., etc. Et on y va quelquefois avec une certaine hardiesse. Hein. On se dit, bon, ben, c'est très bien tout ça, hein, il n'y a pas de problème. Mais je peux me permettre ces libertés qui sont mauvaises, autant que la loi ne me gêne pas. Mais à un moment donné, quand la loi devient condamnation ou sanction, alors à ce moment-là, il faut que je remette les choses en place. Mais on aime hein, quelquefois désobéir. On aime un petit peu marcher sur les plates-bandes, sur les choses comme ça. Et bon, Dieu va certainement nous remettre sur le voie d'un droit chemin. Quatrième raison, je vais terminer. Eh bien, La quatrième raison, elle ne concerne pas tout le monde. Tout le monde, bien sûr. Mais moi-même, personnellement, quoi qu'il en soit. Écoutons bien. Je serai jugé comme moi-même j'ai jugé les autres. Quelquefois, c'est fondamental dans le sermon sur la montagne, ça. On l'a bien vu. Tu seras jugé comme toi tu as jugé ton prochain. Et à ce moment-là, la dose est donnée. La mesure est donnée, c'est-à-dire tu seras véritablement... tu seras jugé et ça va déborder. Et ça sera peut-être multiplié aussi, quoi qu'il en soit. J'ai jugé les autres comme j'ai jugé les autres. Et au verset, je termine là-dessus, parce que ça va être la conclusion. Au verset 12 et 13, il est donné cette parole, parler. Parler, c'est s'exprimer et aller vers les autres. Parler, c'est aussi aimer. Agissez devant, être jugé par une loi de liberté. Oui, c'est ça justement l'équilibre que nous avons besoin. La liberté, qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que la vérité? Et d'avoir, savoir pouvoir conduire à une chose. Car le jugement est sans miséricorde, c'est ce que je disais il y a un instant, vous serez jugé comme vous-même vous avez jugé. Le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde, et nous devons faire miséricorde. Le mot miséricorde, il y a deux pensées à retirer. Misère, le mot misère dedans, et il y a corde pour tirer. Cordial, si vous voulez, c'est encore une autre forme. Cordial, cordialité, c'est aussi une forme de sentiment bienveillant aussi, la cordialité. Alors, la loi royale, c'est-à-dire l'amour, parce qu'elle est appelée la loi royale, devient la foi de la liberté, la loi de la liberté. Alors désormais, la règle d'or de nos paroles, de nos actes, en vertu de ce principe qui soit... qui suit, faites aux autres tout ce que vous voudriez qu'ils vous fassent à vous-même. Comment on peut mettre tout ça en pratique? L'Église, c'est une famille, avec toutes sortes de gens différents, de différentes... Ils ont différentes... différentes éducations, de différentes connaissances aussi, toutes sortes de choses. C'est la multiplicité, naturellement. Eh bien, une chose que nous avons besoin de nous souvenir, c'est que tout ce que vous ressentez, tout ce que vous avez peut-être de destinée, vous n'aimeriez pas qu'il vous le fasse, alors ne le faites pas, vous-même de votre côté. Le respect de chacun, grand ou petit, riche ou pauvre, eh bien, nous est possible dans ce caractère qui doit être le nôtre, comme celui de Jésus, c'est l'humilité. Il s'est humilié lui-même, nous dit les Thessaloniciens, oui, pour mourir pour nous. Paul le dit souvent, qu'il donnerait sa vie pour les autres. Oui. Pour l'instant, il est resté en vie, parce qu'il fallait qu'il prêche l'Évangile. Et nous restons encore en vie pour que nous prêchions l'Évangile, et que nous parlions des bonnes règles, qui finalement transforment une société, transforment finalement eh bien, les hommes tels qu'ils sont, tout simplement. Et de pouvoir agir avec bienveillance à l'égard, tout simplement, de mes semblables. Et ça me rend libre de toutes mes craintes. Je n'ai pas peur de l'autre. On a peur des riches, on a peur des puissants, on a peur de ceci et cela. On a peur des pauvres, pour pas qu'ils nous fassent les poches. Ben oui, non mais attendez, il y a tous les genres, parce que tout le monde a un petit peu sa spécialité dans l'affaire. Ben oui. Vous avez peur des hommes qui sont élevés en politique? Mais bien sûr qu'on peut en avoir des craintes, parce que quand on entend ce qu'on entend, il y a de quoi véritablement eh bien, avoir des idées. Puis on nous parle tous les jours, quand on voit les méfaits, quand on voit les attentats, quand on voit maintenant qu'il n'y a plus le crime, toutes sortes de choses, quand on voit les vols, les... comment on appelle ça les arnaques. Moi, j'y pense tous les jours parce que j'ai une fortune. Je me dis, pourvu que je garde mes cartes. Mais oui, j'en ai deux. Ouais. Non, mais je ne vous dirai pas en plus parce que vous allez être jaloux. Mais toujours est-il que. Mais on est dans la crainte permanente. Mais oui, c'est terrible une chose pareille. Peur des puissants avec leur bombe atomique. Et puis peur des pauvres parce qu'ils sont en train de faire la poche de tout le monde. Puis alors, ils ne vous le demandent pas quand ils font la poche. S'ils peuvent avoir votre carte de crédit, je peux vous dire que vous allez vous en apercevoir. Et puis après, on vous dit, on ne vous rembourse pas. Vous avez fait une erreur, vous avez cliqué. Voilà. Comment on va s'y retrouver dans tout ça? Bon, excusez-moi, je suis en train de m'égarer. Et puis, mais je ne me présente pas en 2017, n'ayez pas peur. Voilà. On en est là, mes frères et sœurs, et je crois que ça, c'est vrai pour l'Église. Je parle pour l'Église ce matin, mais le monde, comment il est? Avec Myriam, ce matin, quand on faisait là, parce qu'on parle un peu de temps en temps, on se parle, nous, tous les deux. Mais bon, enfin, c'est surtout qu'elle qui parle, moi j'écoute. Mais une chose qui est certaine, quand on voit les arnaques, quand on voit tout ce qui se passe, on se dit, mais on vit dans un monde de crainte. Ouais. Hein? Moi, je regarde mes comptes 3-4 fois par jour. Voilà. Alors, mais c'est vrai, on vit dans le traumatisme. Bon, comme ça. En conséquence de quoi? Je termine. Nous avons besoin d'être vigilants à ne pas faire des différences. Mais si notre regard doit se porter pour régler les principes que je veux vivre en tant que chrétien, en tant que chrétien évangélique, alors à ce moment-là, j'ai besoin de regarder à Dieu, c'est lui qui va me donner. J'ai besoin de le prier pour qu'il me garde, qu'il garde mes biens, parce que moi, j'ai toujours la pensée que l'argent que j'ai, je vous ai dit que j'en avais beaucoup, bon, mais une chose qui est certaine, c'est que quelque part, moi, je considère mon argent, mon petit compte, qui ne m'appartient pas, mais il appartient à Dieu. Et j'ai souvent pensé que quand quelqu'un me vole, m'a volé, eh bien, ce n'est pas à moi qu'il a affaire, mais c'est à Dieu. Parce que c'est son argent. C'est son argent à lui. Alors, le voleur ne le sait pas, hein. Mais je dis, Seigneur, tu le punis? Non. Non, non. Alors, on en est là et je vais finir. Je m'efforce de témoigner de la grâce de Dieu en tout, partout, surtout, dans quelques circonstances que ça se présente. Parce que j'ai reçu dans mon âme, par la grâce de Dieu, dans ma raison, dans mon comportement, dans mes réactions, actions et réactions, c'est pas tout à fait la même chose, j'ai reçu finalement la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Alors on peut composer de toute manière ou d'une autre, hein. Et ça c'est dans Philippiens. Oui, c'est en toute intelligence, car il nous est dit que celui qui fait miséricorde, car la miséricorde triomphera du jugement, quoi qu'il en soit. Je peux m'égarer, je peux aller un petit peu de droite et de gauche, mais une chose qui est certaine, c'est que c'est Dieu qui a raison dans tout ça. Alors bannissons tout préjugé et défions-nous des apparences, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment une apparence formidable, on est prêt à leur donner, comment on dit, le bon Dieu sans confession. Oui, c'est pour mon utilisation, moi, de ce terme. Hein. Voilà. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous avons besoin de nous fier, de ne pas nous fier aux apparences. Ainsi Dieu dit au prophète Samuel, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Une dernière chose, ça se terminera par une petite lecture. C'est dans Luc, vous le connaissez, écoutez, regardez ce beau message, finalement, eh bien, d'amour de son prochain. Il est dit ceci dans Luc chapitre 10, et au verset 31, il est donné cette parole. Alors que je retrouve 31, un sacrificateur, voilà, donc, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, vous avez compris, il tomba au milieu des brigands, ils le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, c'est-à-dire un prêtre, qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite fit la même chose, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, moi je veux être le bon samaritain, oui, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, peut-être une petite fortune pour lui, je ne sais pas. Hein. Lui le donna à l'hôte et lui dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Eh bien, mes frères, Nous avons véritablement une parole de Jésus extraordinaire. C'est une parabole, c'est une allégorie, c'est vrai. Mais c'est ce que nous devons être les uns et les autres. Et quand bien même, c'est pas mon frère, c'est pas mon concitoyen, mais que ce soit un étranger, eh bien je dois avoir les mêmes gestes ou les mêmes paroles et le même cœur avec les uns, avec les autres, au milieu de nous. Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres. Que Dieu nous bénisse ce matin.
Amen.
Que Dieu nous donne sa grâce. Amen. On va prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ton infinie bonté. Nous voulons véritablement, Seigneur, eh bien, te remercier parce que pour certains d'entre nous, nous sommes nouveaux dans la famille. Pour d'autres, ça fait des années. Mais une chose qui est certaine, Seigneur, c'est que, en effet, tu veux que la famille grandisse, la famille de l'Église grandisse. Et nous venons tous avec ce que nous avons vécu. Nous vivons tous, nous venons tous avec un vécu particulier. Et pourtant, tu nous rassembles pour que nous soyons unis les uns et les autres. Aide-nous, Seigneur, et bien là, Père éternel, à accueillir sans préjugés et de pouvoir finalement cheminer, accompagner, éduquer, Seigneur, si les choses sont ainsi. Alors merci pour ta bonté, ta fidélité, pour la grâce que tu nous donnes et pour les enseignements parfaits de Jésus. Parce que c'est un idéal que tu nous proposes et nous, nous ne sommes pas sur une terre d'idéal. Et nous sommes tout emprunts, eh bien, en effet, d'injustice, de toutes sortes de choses qui ne sont pas tout à fait eh bien, dans la règle. Mais une chose qui est certaine, c'est que tu veux véritablement que nous reconnaissions tous les hommes eh bien, comme des frères, des sœurs, et que nous puissions, Seigneur, eh bien, là, rendre un témoignage au message parfait de l'Évangile en vivant ce que tu nous as appris à vivre, à l'exemple de Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Bénis mes frères et mes sœurs. Inspire-nous, Seigneur, de ton Saint-Esprit, parce que c'est bien là. Et puis, permets, Père éternel, que nous puissions faire des progrès dans la foi, que nous puissions faire des progrès dans la grâce, que nous puissions véritablement, eh bien là, être ce que tu désires que nous soyons, puisque tu as marché devant nous, et tu nous as aimés tels que nous étions, pour que nous puissions aimer les autres, comme toi-même, tu les aimes également. Merci, mon Dieu. Amen.
Amen.